Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Post-scriptum. C'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la victoire, environ 3 heures, je crois, j'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. À vous, ma vie.
Au sommaire aujourd'hui, une émission hommage à un immense cinéaste qui vient de nous quitter, cinéaste dont la filmographie débute par L'Horloger de Saint-Paul, drame sensible sur le père d'un assassin, premier film et premier coup de maître d'une longue filmographie qui en comptera d'autres tels que La Fête commence, Le juge et l'assassin, Coup de torchon, Capitaine Conan, L627, L'appât, Autour de minuit, Dans la brume électrique, Quai d'Orsay, voilà, un cinéaste assez exceptionnel. Que nous avions rencontré, lui qui était aussi président de l'Institut Lumière, lors de la sortie de la Princesse de Montpensier en 2010. Il était venu présenter son film au public du Festival de cinéma de Beauvais, dans l'Oise. C'était la deuxième saison de Culture Prohibée, donc ce n'est pas d'hier. C'est une interview dont je garde un souvenir extraordinaire qu'on avait faite avec Christophe Cosins, qui à l'époque travaillait dans l'émission. On l'avait interviewé, ça s'était tellement bien passé qu'il nous avait proposé de manger avec lui. Donc on était resté manger avec Bertrand Tavernier. Il nous avait fait cadeau de la BO de son dernier film. Un disque de Philippe Sard, voilà. Donc c'était pour nous une journée assez inoubliable. C'est un de mes plus grands souvenirs d'interview et la rencontre d'un homme absolument extraordinaire. On dit parfois, il y a une expression qui dit, bon voilà, quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Avec Bertrand Tavernier, c'est la cinémathèque française qui je veux dire, c'est une cinémathèque qui s'éteint. Enfin, c'est un monstre. C'était aussi un monstre de transmission, hein, avec ses derniers documentaires sur le cinéma français. Enfin, voilà, une personnalité extraordinaire et très importante dans l'histoire du cinéma et pas qu'en France. Hein, voilà. Alors, avant d'écouter ce gigantesque entretien, cet entretien fleuve qu'on avait eu avec Bertrand Tavernier, je suis dans ce studio avec Thomas Roland qu'on surnomme le loup-garou picard. Hein, voilà, je vous rappelle d'ailleurs que chaque nuit de pleine lune, il enregistre à l'écoute du cinéma qui est diffusé sur RCA. Thomas, toi, c'est aussi un réalisateur qui compte pour toi, Bertrand Tavernier.
Bertrand Tavernier, c'était surtout effectivement un grand homme de cinéma qui avait une énorme cinéphilie et qui adorait transmettre. Quand il parlait de cinéma, bah, il était passionné et il donnait envie de voir les films qu'on n'avait pas vus, qu'on ne connaissait pas forcément, parce qu'en plus, il parlait de films peu connu, et donc il savait donner envie de voir des films, mais aussi de la façon dont il analysait les films, notamment je pense au bonus des westerns Sidonis Calista, qui sont souvent assez pertinents, hein, où il revient sur l'histoire du film, sur la mise en scène, sur la façon dont il a été fait, puis aussi sur des choses qu'on ne voyait pas forcément à la première vision, sur des petits dialogues, des détails sur des dialogues, sur des effets de mise en scène, etc. Donc pour ça, Bertrand Tavernier, c'était quand même une personnalité importante dans le PAF, le paysage audiovisuel français.
Nous allons faire un petit voyage vers le passé, donc en 2010, lorsque nous avions rencontré Bertrand Tavernier. Donc tout de suite, Bertrand Tavernier, au micro de Culture Prohibée.
Quel a été en gros votre premier choc cinématographique, vraiment ?
Le premier choc dont j'ai été vraiment conscient, ça a été la charge héroïque de John Ford et les trois lanciers du Bengal de Henry Hathaway. Voilà. Et qui sont restés, même maintenant quand je les revois, toujours des chocs.
D'accord. Vous avez reçu une éducation assez religieuse. Je veux dire, en quoi cela influence votre travail de cinéaste, même à travers votre dernier film d'ailleurs, puisque c'est en toile de fond.
Je trouve que ça m'a fait comprendre l'histoire des religions, les croyances, les erreurs aussi énormes qu'on a pu commettre, voire les crimes qu'on a pu commettre au nom de la religion. Mais en tous les cas, j'ai appris ça de l'intérieur, ce qui est très bien. Et puis, j'ai une certaine forme de foi, pas tellement dans l'Église que dans un peu dans quelque chose, je ne sais pas, qui pourrait s'apparenter à une croyance religieuse, à une forme de Dieu, mais pas celui, parfois pas toujours celui qu'on veut nous vendre, et pas celui que nous vend le Vatican ou certains évêques. Mais un petit peu, je vois un auteur que j'adore, qui est Victor Hugo, avait une foi réelle, mais aussi une détestation de beaucoup de pratiques de l'Église et des prêtres. Il ne croyait pas dans les prêtres, il croyait dans quelque chose d'autre. Et c'est vrai. Moi, je me sens... mais un petit peu aussi comme Jean Orange, qui avait un peu le même état d'esprit, assez anard. Mais j'ai envie, moi aussi, de parler quand même de la foi. J'ai envie, et j'étais content de faire un film d'après James Lieber, qui est un auteur catholique, et dont le personnage principal, Dave Robichaud, est croyant. Ça m'intéressait, Je retrouvais mes racines aussi d'une certaine manière, et ça devient maintenant presque une forme d'originalité. À une époque où l'Église était puissante et exerçait des vétos, une censure très très forte, on pouvait être anticlérical. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que la religion semble presque aussi abandonnée que le Parti communiste. Et par moments, on le regrette. On le regrette parce qu'au moins, c'était quelque chose contre lequel on pouvait se dresser. Et ça vous formait. Si, on peut continuer à contester l'attitude de certains dignitaires religieux vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis comme ça, on peut, mais c'est une étroitesse d'esprit qui est aussi partagée et encore plus partagée par des gens qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, qui peuvent être protestants, qui peuvent être dans d'autres, appartenir à d'autres fois, ou être pas croyants. C'est une forme d'obscurantisme et de mépris et de haine de la femme qui n'a pas besoin de la religion pour s'exercer.
Vous écoutez Bertrand Tavernier.
Un autre cinéaste qui vient aussi d'un pays où il y a une grande ferveur catholique, c'est Ricardo Freda.
Oui.
Et c'est un cinéaste. Bon, on sait que La Fille de D'Artagnan, c'est au départ Ricardo Freda qui devait le réaliser. C'est un cinéaste que vous avez toujours défendu bec et ongles, alors qu'il c'est pas forcément. Aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli.
Vous savez, le nombre de très très grands cinéastes tombés dans l'oubli par des gens qui écrivent, par des journalistes qui ont toujours l'impression qu'ils font naître le cinéma au dernier film de Tim Burton. Hein. Vous savez, s'il n'y avait que Ricardo Freda qui est tombé dans l'oubli. Mais il y a... qui s'intéresse réellement à René Clément, à Jacques Becker, à Max Ophüls, à Robert Bresson, à des cinéastes majeurs. Alors si on arrive parfois, au cours d'un anniversaire, d'un festival, de ressusciter un intérêt, et on peut le faire si on sait communiquer sa passion. Avec Thierry Frémaux, nous avons créé un festival qui est entièrement dédié au patrimoine. Et dans ce festival, c'est sa deuxième année, on montre des films anciens, alors, qui peuvent être des films muets, qui vont du cinéma muet à un passé récent, mais oublié. quand on montrait la 310e section ou Five Easy Pieces dans la salle, 95 ou 16% de la salle n'avait pas vu ces films. Et je ne parle même pas d'Amadeus. De là où c'est plus suffocant. Vous avez 60% des gens qui ne connaissent pas le film. Alors, les films tchèques de Forman, n'en parlons pas, qui sont tous des chefs-d'œuvre, en plus. Mais, eh bien, on s'est aperçu que si on arrive à faire passer notre passion, les salles étaient pleines. Pleines ! Qu'à 9h du matin, il y avait 340 personnes pour voir Justin de Marseille de Maurice Tourneur. Que L'As de Pique, dans un cinéma de la ville de Lyon, présenté par Audrey Dana, c'était plein. Que Léni, présenté par Cadmerade, c'était plein. Donc, c'était des films noirs et blancs, dont on dit que personne n'en veut. Eh bien, c'était plein. C'est tout. Je veux dire, il y a aussi les journalistes qui s'abritent derrière ça, les gens de directeurs de chaînes de télé, les gens comme ça, c'est des gens qui capitulent. Qui capitulent. Oui, ils capitulent comme Daladier et Chamberlain ont capitulé devant Hitler. C'est pareil. Et il y a des générations de capitulards. Et les gens qui vous disent « Ah ben, j'ai fait une séance patrimoine et j'ai 20 personnes », c'est qu'ils ne savent pas la vendre. Les directeurs salles, c'est qu'ils ne savent pas passer l'accroche, un présentateur qui sache animer un truc, une manière de faire passer un courant, l'aide peut-être de la presse locale, donc on peut avoir des responsabilités partagées, mais on y arrive, hein. On y arrive à Lyon, et on ne peut pas dire qu'on soit aidé par la presse, hein, notamment pas par le Progrès. Pas par la presse, rien, qui ne parlait que des trucs qui n'allaient pas. Un micro qui ne marchait pas, un enfant qui pleurait. Il ne disait pas qu'il y avait 4000 enfants pour Le Roi et l'Oiseau. Il disait qu'il y a un enfant qui a fait un caprice, qui a fait un drame, c'est honteux, on devrait s'occuper de choses comme ça et tout. Le journaliste, il écrivait. Il n'écrivait pas qu'il y a eu un quart d'heure d'ovation pour Amadeus. Il a parlé sur deux paragraphes du fait qu'il y avait eu une enceinte qui avait sauté, que pendant un quart d'heure, on n'avait pas pu faire démarrer la projection. Et il disait « couac », énorme couac dans la séance de clôture. Il ne dit pas 4500 personnes, 25 metteurs en scène de tous les pays venus saluer Milos Forman, dont Suleyman Sissé, dont Zulawski, dont des gens, dont Xavier Giannoli. Non. Donc c'est en dépit de... Eh bien, on a cet enthousiasme-là. Donc on le fait passer. Mais c'est vrai qu'il y a une ignorance, que cette ignorance, elle ne s'exerce pas simplement au niveau de Ricardo Freda, elle s'exerce au niveau de l'histoire. On va dans une classe, les gens ne savent pas si François Ier, c'est avant ou après la Première Guerre mondiale. Donc, il y a un peu je pense que l'enseignement de l'histoire tel qu'il a été pratiqué depuis 20 ans est une catastrophe. Le mépris qu'il y a vis-à-vis de l'histoire. Personne n'arrivera à me faire croire que Luc Chatel a un quelconque intérêt vis-à-vis de l'histoire. Personne, hein. Que les ministres qui s'occupent là maintenant, soit Luc Ferry, certainement oui. Luc Ferry devait... Peut-être Bérou, puisqu'il a signé un livre sur Henri IV. Je ne sais pas s'il l'a écrit, mais il l'a signé, en tous les cas. Donc, tu vois, il a mis son nom. C'est déjà une chose énorme. Certains ministres... comment est-ce que vous pouvez penser que ces gens-là vont imaginer que l'histoire, l'enseignement du français ou de la philosophie peuvent avoir un intérêt, vu que ça ne fabrique pas
des moutons.
Des gens qui vont travailler pour M. Proglio ou pour ça, probablement ce qui semble être le but de l'éducation telle qu'on l'imagine.
écoutez le réalisateur de L627 et Coup de torchon au micro de Culture Prohibée, à savoir Bertrand Tavernier.
Vous, vous êtes quand même un grand directeur d'acteurs. Quand vous travaillez, vous, avec vos interprètes, est-ce que vous faites des répétitions avant, vous travaillez en amont, est-ce que...
Il n'y a pas de méthode, c'est selon les comédiens. Je fais pas mal de lectures. Alors, lecture soit seule avec un comédien, mais Lani Thierry m'a demandé que deux fois on lise le scénario ensemble, et puis elle me posait toutes les questions qu'elle pouvait me poser. Mm-hmm. Je trouve ça très bien. Ça peut être des lectures à plusieurs, où on se questionne sur une phrase, où les gens peuvent dire, exprimer leur doute sur un mot, peut-être. Ça nous permet, avant qu'on commence à travailler, de couper une réplique ou de... Voilà, bon. C'est des discussions aussi. C'est des livres que je donne lire. Il y a certains acteurs qui demandent qu'on s'occupe beaucoup d'eux, qu'on les nourrisse. Il y en a d'autres qui ont envie de chercher par eux-mêmes, mais qui demandent des pistes. Alors, on peut leur donner. Avec Philippe Noiret, c'était de très longues discussions sur tous les accessoires qu'il allait utiliser dans le film. C'était sur le costume, c'était sur la coupe de cheveux. Et à partir de là, le personnage se construisait. Avec Philippe Torreton, c'était aussi sur un entraînement physique. À un moment, je lui ai demandé, lui et tout le groupe Conan, d'aller s'entraîner un mois pour qu'ils se connaissent tous, pour qu'ils s'habituent à bouger ensemble. Et il y avait l'obsession de Philippe Torreton, c'était comment est-ce qu'on exprime l'autorité à l'écran? Comment est-ce qu'on peut être chef? Et en travaillant avec le personne qui servait de conseiller technique sur militaire, qui était un ancien adjudant-chef d'un commando de chasse en Algérie, qui lui a dit, c'est un truc très simple, c'est que il faut que tu habitues tes hommes à te regarder toi en action. Ils ont les yeux fixés sur toi. Donc c'est toi qui dicte la vitesse, le truc, voilà. Et si on obtient ça, l'autorité, elle se discutera pas. Voilà, c'est on travaille sur des choses comme ça qui sont. On avait travaillé sur Conan pour obtenir un truc de camaraderie sur le fait que tout le monde apprenait des chansons et qu'on se partageait les chansons. Ils devaient tous savoir trois ou quatre chansons qui avaient été écrites par Jean Cosmos pour le film. Et Marie, Marinette, il y en avait une, la Mouquère à Germain, elle a de jolis seins. Tout à fait des chansons de Troufion qui marchent, comme ça, qui étaient vachement bien. Et le fait de l'apprendre ensemble, d'être ensemble pour les chanter et tout, ça fait que quand on est arrivé sur le tournage, tout le monde se connaissait. Et ça m'évitait, ça évite des heures d'explications sur le plateau, ça.
D'accord. Et par contre, juste une petite question, comment vous travaillez au niveau du scénario? C'est un petit peu comme Alain René, vous créez le passé du personnage, la fiche.
Je demande souvent des renseignements sur d'où il vient, comment, quel est son accent, qu'est-ce qu'il fait. Je pose plein de questions et soit on me les dit, on me l'explique, soit on le trouve petit à petit en travaillant là-dessus. Et puis, je reviens sans cesse sur les scènes, je questionne chaque réplique, je veux essayer de la sentir, de l'assimiler, de voir où ça nous mène ou de la supprimer si elle me paraît. Alors moi j'ai des obsessions que Jean Cosmos connaît, je veux jamais avoir terminé une scène sur une phrase choc. Je veux pas avoir l'air de terminer sur ce qui pourrait s'apparenter à un mot d'auteur. Donc elle doit être peut-être on coupe avant la fin d'une scène que j'arrive à effacer la notion d'intrigue et ce qui est mon obsession, c'est-à-dire que l'intrigue ait l'air de naître des personnages et non pas de dicter leur comportement des personnages. Il y a tellement de films des années 50 où j'ai l'impression que l'intrigue est prédéterminante. Les gens sont jugés et condamnés avant pratiquement que l'histoire commence. Ce que je veux pas, je ne veux qu'il y ait aucun jugement, je veux découvrir les personnages au fur et à mesure du récit, être avec eux ou contre eux sur certaines actions, mais ne jamais avoir, que jamais, même je me pose des questions en termes de sympathie ou d'antipathie générale sur eux.
D'accord. Mais je pense que enfin, aux États-Unis, ça vient peut-être aussi de l'écriture, enfin de la création du polar de Dacier Lamette, de cette écriture au couteau, très, ce qu'on a appelé le behaviorisme, peut-être.
Oui, ça vient de ça, mais en même temps, les scénarios américains sont remplis d'indications. Hein. Et les Américains, alors, sont les acteurs américains, très souvent, vous demandent des tonnes de raisons, de pourquoi ils font ça. Il n'y a pas d'acteur qui m'ait plus questionné que Harvey Keitel. D'accord. Oui, c'est un behaviorisme, mais Hammett, il ne donne aucune explication, et c'est le contraire. Mmh. Même le... Je trouve qu'il y a parfois il n'y avait pas trop ça dans le cinéma classique américain, mais parfois dans le cinéma maintenant un surplus d'explications dans le cinéma américain contemporain.
Ni que lo digas. Vamos, Charlie, despierta.
Podría tocar de pie.
Aunque tocara tumbado sería estupendo.
Sí, ¿eh? Igualito que tú.
Yo boca arriba no, solo soy estupendo boca abajo.
Thank you.
vous écoutez Bertrand Tavernier.
Pour moi, enfin, en tout cas, vous faites partie des maîtres du polar français. Bon, côté du regretté Alain Corneau, bon, Chabrol aussi, il y a Frédéric Schoendorfer, puisqu'on a parlé de son père, que je trouve être un grand réalisateur de polar actuellement, beaucoup plus par exemple qu'un Marshall. Je trouve qu'il fait un cinéma plein d'emphase.
36 est le premier film de Marshall, était en réalité. Marshall a fait un film qui lui était très personnel et qui était en effet très emphatique. Moi, j'attends le suivant, parce qu'il y avait des qualités dans Marshall qui sont, je trouve, fortes. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
Moi, j'adore l'acteur, hein, j'adore le...
Oui, mais moi, j'adore l'acteur, mais je trouve qu'il y a des scènes extraordinaires dans 36. Il y a des scènes extrêmement fortes, et c'est un des films où les truands font le plus peur. Mais il y en a d'autres qui ont réussi des films avec des qualités, peut-être pas tous parfaits, mais je trouve Convoyeur, il y avait des choses intéressantes de Boukreev. Il y a quelques cinéastes, il y en a qui paraissent trop même peut-être, c'est peut-être le défaut de Boukreev, trop dogmatiques. Ils ont l'impression qu'ils ont une idée très préconçue avant le film et qu'ils l'annoncent, ce qui n'était pas le cas de Don Siegel, de Walsh, qui étaient des gens qui se coulaient dans le sujet et qui allaient chercher la force vitale du sujet sans idée préconçue. Et c'est ce qui fait de L'Enfer est à lui un film complètement prodigieux. Très supérieur à plein d'autres films de la même époque.
Mais c'est ce que vous faites dans L627, en fait.
Mais L627, c'est une manière de réagir, pour moi, contre tous les films polars qui se sont plaqués, qui ont imité Melville. Lui-même, Melville, imitant le cinéma américain, très fort, se nourrissant du cinéma américain, mais réussissant quelque chose de différent du cinéma américain. En tous les cas, dans des films comme Le Doulos... ou Le Deuxième Souffle, et à plus forte raison dans L'Armée des Ombres. Son obsession, moi je le connais tellement, je vois bien quelle est son obsession à Melville, et en fait, le résultat est très différent de ce qu'il croit réussir. Ça l'amène presque plus près de Bresson que de William Wyler. Mais après, il y a des gens qui ont copié ce qu'il y a de plus contestable dans Melville. Je trouve qu'il y a le Melville du Cercle Rouge, c'est l'attitude hiératique des personnages, c'est le côté on va pas exprimer les sentiments, ce qui pendant longtemps a été mais totalement bidon par rapport au gangstérisme français. Gangstérisme français, c'était des Corses, des Marseillais, c'était des mecs, c'était des types qui étaient, c'était pas Henri Fonda, c'était pas des mecs cloîtrés dans un côté ange vengeur. C'était pour très souvent des délateurs puants, des mecs qui avaient travaillé avec la Gestapo, des macs. Et je trouve que d'une certaine manière, Audiard en parlait mieux que beaucoup de gens. Mais d'un seul coup, on les transformait comme si c'était des personnages d'Eschyle. Et moi, je trouve que dans le Cercle Rouge, c'est complètement bidon. Mesrine aussi, qu'on mythifie un petit peu, là, c'était un type qui avait un QI, à part qu'il avait une intelligence animale, mais s'il avait un QI d'escargot, quoi. Je veux dire, c'était un type qui avait, par contre, un nombrilisme effroyable, une avidité de... Enfin, c'était un type... C'est ce qu'en dit Charlie Bauer, en tous les cas, qui a un mépris absolu pour lui. Alors maintenant, peut-être que le monde, quand c'est arrivé, et je ne suis pas complètement sûr. Je pense qu'il y a... Donc, à l'époque de L627, moi j'étais confronté à des flics qui étaient des sous des sous-personnages, des copies carbone de Lino Ventura, de Belmondo dans le Doulos, des gens qu'on faisait, bon, sauf qu'ils n'étaient pas Lino Ventura et sauf que les mecs n'étaient pas Melville. Et moi j'ai voulu tout d'un coup filmer, montrer une réalité beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus et beaucoup plus éprouvante, ça, et qui d'ailleurs, me disent les flics, n'a pas du tout changé depuis L627. Ils sont confrontés aux exactement aux mêmes choses. Je lisais d'ailleurs dans Marianne une série de témoignages de policiers recueillis par Frédéric Ploquin, et je tombe sur que des choses qui sont dans L627. Les mecs qui payent leurs propres balles. Ils n'ont pas de budget pour donc ils, comme dans L627, les mecs se payaient les piles des Motorola, se payaient tous les trucs, parce qu'il n'y avait pas de budget dans le truc.
Eh bien, je trouve même qu'au niveau de la forme, L627, c'est ça carrément. Enfin, ça a peut-être un peu tombé dans l'oubli pour la majorité des gens, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait en matière de polar, la façon dont c'est filmé et tout, pour moi, ça découle de L627.
Ben, ça n'a pas tombé. Enfin, Olivier Marchal m'a toujours dit que c'est le film qui est.
Je parle pour le public lambda.
Le public, chaque fois qu'on est passé à la télé, on a cartonné. On a énormément cartonné. Je pense que si, mais c'est la timidité du service public, si on faisait L627, et après un débat avec des policiers, de base, on cartonnerait. Mais simplement, ça a toujours été refusé, de dire on va faire un débat avec des flics, là maintenant, pour dire est-ce que ça a changé depuis que Sarkozy est là, est-ce que ça a changé. Mais ça, on m'a dit, ah non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire.
Sujet
on peut
tabou.
Pas. C'est complètement tabou. Alors que vous tombez sur un... Il n'y a pas si longtemps, un flic qui m'expliquait, qui m'a reconnu à L627 et tout. Puis qui me parlait de il me dit, mais vous savez, moi, quand pour faire tomber les chiffres de la criminalité, c'est pas dur. Moi, j'enlève les chaises dans mon commissariat. Et donc, les mecs qui arrivent, notamment les personnes âgées, ils voient qu'il y a une queue, il y a toujours une queue. Il n'y a pas, il n'y a rien où s'asseoir. Ils ne viennent pas. Il me dit, quand je fais ça, je gagne 15%. Et j'ai les félicitations. Je gagne 15% en moins de trucs. Mais les actes de délinquance, ils ont eu lieu. Donc les gens ne croient pas, les statistiques ne croient pas. L'autocongratulation, ça a baissé. Pour eux, ça n'a pas baissé. L'immeuble a été cambriolé deux fois, comme les années précédentes, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et les gens ont été attaqués de la même façon. Mais simplement, on se met la tête sous la couverture, donc comme on s'est mis la tête sous la couverture, on ne le voit pas. Voilà, c'est un peu, c'est ça.
Let's
vous écoutez le réalisateur de L627 et Coup de torchon au micro de Culture Prohibée, à savoir Bertrand Tavernier.
Pensez-vous que dans la jeune génération, il va y avoir des cinéastes d'auteurs comme vous, à la fois cinéphiles et engagés? Parce que j'ai l'impression que de nos jours, en fin de compte, ils sont plus cinéphiles, avec énormément de clins d'œil. Ça devient en fait des cinéastes.
Gianoli qui répond complètement à ça. Il n'y a pas de film qui est à la fois plus fort et qui témoigne d'un amour du cinéma et plus engagé qu'à l'origine. C'est un chef-d'œuvre. Jacques Audiard aussi. Jacques Audiard. Et dans les gens nouveaux, je pense que on va tomber sur des gens qui filment en banlieue, qui filment des trucs qui sont des sujets qui sont dérangeants. Oui, je pense qu'il y en aura. Il y a ça, il y a cette tradition quand même française. Elle y est aussi dans le documentaire. Mais des cinéastes d'une... je sais pas, peut-être que Nicolas Saada, un jour, va nous surprendre. Peut-être il y a un certain nombre de personnes, oui, qui vont le faire. Et qui ne vont pas faire que... Il y a Eric Vallette qui a essayé un petit peu. Eric Vallette. Il y a donc... Je connais des cinéastes qui, en tous les cas, d'affronter ce dilemme.
Justement, c'est peut-être plus dur aujourd'hui, parce que moi, je voyais, il y a eu 6 ans avant que vous fassiez, par exemple, Dans la brume électrique. Bon, là, ça a été plus vite, mais visiblement, c'est peut-être plus dur de monter des projets plus ambitieux comme ça aujourd'hui. C'est plus dur de faire
tout,
des films.
Tout est dur. Je pense qu'un polar, ça peut être parfois plus facile, et il y en a des tas qui se font, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très décevants ou qui ont l'air de reprendre des situations éculées. Hein. Moi, j'en vois, mais je ne peux pas complètement juger, parce que il y a plein de films que je ne connais pas. Je n'ai pas vu, je ne sais pas, j'ai pas vu le dernier film de Richard Berry avec Jean Reno, j'ai pas vu tout un certain nombre de films. Mais il y en a qui se montent sans grand problème, mais c'est pas forcé que le résultat soit toujours bien, parce que c'est un problème, hein, d'arriver à un film de faire un film qui n'ait pas l'air de copier les films anciens, qui se démarque de toute influence et qui parle de quelque chose de réel. Moi, j'ai pas vu le dernier Boukrieff. J'aurais bien eu envie de voir, mais je ne l'ai pas vu.
Moi, j'aime bien, mais on sent l'influence de Friedkin. Voilà, on sent qu'il a voulu refaire Police fédérale Los Angeles.
Mais je pense que ça, c'est un truc terrible. De se mettre à la remorque d'Éricain, c'est absolument terrible. Parce qu'il faut bien voir, quand vous discutez avec les metteurs en scène américains des années 40, c'était des gens qui, eux, étaient marqués par des films criminels français, qui n'étaient peut-être pas forcément polars, mais qui étaient criminels, qui pouvaient être... Le jour se lève, qui peuvent être des films qui parlaient de situations très 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 dramatiques, pouvaient être Pépé le Moko, qui pouvaient être La Chienne de Jean Renoir, qui pouvaient être des d'ailleurs c'est pas un hasard si tous ces films il y a eu des remakes, qui pouvaient être Le Corbeau de Clouseau, chef-d'œuvre absolu, ou qu'il y a des orfèvres, ou là, là. Bon, ça c'était des films, c'était pour, je me souviens de John Berry disait, mais ça c'était des films dont on avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à faire aux États-Unis, parce qu'il y avait une telle censure aux États-Unis, qu'on, d'ailleurs, vous comparez, c'est un exercice passionnant, Pépé le Moko avec son remake américain, et vous voyez tout ce qu'ils ont gommé. Il n'y a plus de femmes entretenues, il n'y a plus de prostitution, le héros ne se suicide pas, il est abattu par erreur par la police. Il y a toutes les situations qui sont délicates, difficiles, et qui donnent un piment à l'histoire sont évincées par ça. Donc, après, maintenant, nous, on vient à la remorque des Américains. Mais On n'a pas les décors, on n'a pas les routes, on n'a pas l'attitude américaine, on n'a pas les lois américaines. C'est pas la même chose. Donc on peut pas avoir le comportement exactement. On peut parfois... mais par exemple, les flics qui s'imaginent être dans des films américains, c'est des flics qui créent des bavures. Bah oui. C'est les mecs qui sont dans la banlieue, qui vont provoquer des trucs, c'est ça. Je ne sais pas s'il faut imiter William Friedkin. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, la première chose, c'est de se nourrir de la réalité et de ne pas chercher à imiter les d'autres cinéastes. Surtout de pas... Il ne faut surtout pas, et surtout des cinéastes d'un autre pays.
Vous écoutez Bertrand Tavernier.
Vous considérez-vous d'abord avant tout comme un cinéphile ou un cinéaste ?
Un cinéaste. Mmh. Je ne suis, et quand je tourne, je ne suis pas du tout cinéphile. Mmh. Quand je fais un film, je ne suis pas du tout là. Je...
D'où votre éclectisme d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a pas un film de un de vos films qui ressemble au précédent.
Ben, il ressemble sur un certain nombre de ils se recoupent. Là, je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils ont énormément
sur le
de points
fond,
communs.
Mais sur la
non,
forme.
Mais même sur la forme, ça dépend. La forme, elle est dictée aussi par les personnages, par l'époque. Mais en revanche, sur certains personnages et le traitement de personnages, Lambert Wilson, il est très proche du commandant de la plane de La Vie et Rien d'autre. Mmh. Très, très, très proche. C'est deux personnages qui sont qui ont beaucoup de points communs. Et le traitement des scènes de bataille dans La Princesse de Montpensier est semblable au traitement de scènes de bataille de Conan. C'est j'ai essayé d'avoir un peu le même style de regard dans les deux cas. En tous les cas, j'essaye à chaque fois de mettre un nouveau défi. J'ai peur de me répéter, j'ai peur de me reposer sur ce qui pourrait devenir une formule. Je voudrais, mais je pense qu'il y a des liens étroits entre certains films.
Mmh. Pour terminer, vous les avez un peu répondu tout à l'heure avec les jeunes, mais vos projets actuellement
Non, pour le moment, tant que j'aurai pas signé de scénario, je le dis pas.
D'accord.
Je le dis pas parce que il suffit que j'ai commencé à l'annoncer parce qu'il y avait un type assis au canal qui voulait à tout prix le faire et tout, et qui était. Et 15 jours après, il était déquillé. Je veux pas porter malheur à d'autres personnes. Donc. Moi, j'annonce pas tant que j'ai pas moins signé un début de contrat.
D'accord.
Parce que sinon, on reste à parler de projets dans le vide. On finit par le raconter et on s'use à raconter quelque chose. On le raconte tellement qu'on n'a plus envie de le faire.
Je sais pas, nous dire quelques mots en fait sur votre rapport avec la peur de Claude Chabrol. Comme vous parliez tout à l'heure, nous dire, je ne sais pas, quelques mots.
C'était un ami très 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 proche. On avait tellement travaillé de voix ensemble chez Georges de Bourgard. J'avais fait plusieurs films, dont un que j'aimerais bien revoir, qui était Marie Chantal contre le Docteur K. Ouais. Là, que j'ai pas revu là, et qui doit être assez extravagant.
C'est sympathique.
Oui. Hein, ouais, ça. Hein, L'œil du malin, j'avais fait. Et puis je l'avais. J'avais à un moment, j'étais allé plusieurs fois j'étais allé le voir au moment de la ligne de démarcation. Mais surtout, j'avais fait avec Chabrol le boucher, Que la bête meure, La femme infidèle, enfin un certain nombre de films qui sont formidables. Et j'adorais Claude, j'adorais être avec lui, j'adorais. Je crois que c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire, que je trouvais le plus intelligent, le plus vif, le plus parfois terriblement de mauvaise foi, mais en même temps, je pense que c'était le plus doué de sa génération. Et quand il voulait et qu'il prenait vraiment un sujet à cœur, il pouvait faire des plans que personne d'autre dans sa génération ne pouvait concevoir. Qui était, mais le premier plan de la cérémonie, hein, c'est quelque chose de formidable.
Ah, ouais.
C'est formidable. Il avait des idées à ce moment-là qui étaient extraordinaires, enfin, qu'on sent dans Une affaire de femme, dans Betty, dans La demoiselle d'honneur. Non, c'est quelqu'un de magnifique, magnifique.
Vous pensez être maintenant un passeur de mémoire, comme on voit comme...
Je pense être, pour le moment, la seule chose que je pense être un cinéaste qui essaye, tant bien que mal, de faire ses films. Après, je me poserai des questions d'être un passeur de mémoire. Moi, je me vois comme quelqu'un qui essaye désespérément, faut pas non plus... Mais si, c'est difficile, à chaque fois, j'ai l'impression... qu'il faut se battre de plus en plus pour arriver à convaincre les gens. C'est vrai que je ne cherche pas à faire de comédie, c'est vrai que c'est une erreur. Il faudrait qu'un jour que j'essaye d'en faire une. Peut-être que d'ailleurs je me pèterai la gueule très très fort. Mais je n'emploie pas Cadmérade, ou Gad Elmaleh, ou je sais pas, ou tous les gens que tout le monde s'arrache et que je respecte. Hein. Je pense que Cadmérade est un acteur formidable. Formidable. Et il veut faire un film avec Gianoli. Et je pense que c'est très intéressant. Mais je suis cinéaste et j'essaye de... Et malgré tout, optimiste, malgré tout. Mais après, le reste, c'est passeur de mémoire et tout. On verra après. D'abord, il faut continuer à essayer de tourner.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.